Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Cette semaine, Les Nouveaux Chemins vous propose de redécouvrir une série d'émissions consacrée à Simone de Beauvoir et diffusée en février 2013. Hey, you know what? Les Nouveaux Chemins dessinent tous les jours un masque blanc en cristal noir en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, Jean Danielou et Jules Salomon, à la lecture des textes de Beauvoir cette semaine, Marianne Bassler, à la réalisation de Mandarins en or, Mydia Portis-Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son romanesque, Michel Mestre. Dernier temps aujourd'hui de notre semaine en compagnie de Simone de Beauvoir. Après l'autobiographe, la philosophe et la féministe, c'est avec la romancière que nous allons passer les prochaines 50 minutes où comment la littérature est le meilleur moyen de parler de l'œuvre de Simone de Beauvoir sans la découper artificiellement en petits morceaux.
Elle avait une extraordinaire facilité de pensée philosophique et littéraire à la fois. Et je me rappelle qu'elle faisait un véritable amalgame de philosophie et de littérature dans ce qu'elle disait. Ce qui, à ce moment-là, me choquait énormément. Ce n'est pas ce que je pense maintenant. Mais à ce moment-là, j'avais de la philosophie une idée, non seulement stricte, je l'ai toujours, mais une idée étroite. J'avais une sorte de rationalisme extraordinaire qui faisait que tout mode d'expression qui n'était pas le mode d'expression en concept me paraissait subordonné. Et je me rappelle très bien que l'une des premières fois que j'ai vu Simone de Beauvoir, je l'ai trouvée à la bibliothèque Sainte-Geneviève en train de lire Proust. Et je me rappelle, je n'avais d'ailleurs pas lu Proust à ce moment-là, ou à peu près pas, et je me rappelle très bien que je lui ai remontré que, quand on était philosophe, la première des choses à faire était d'aller à ce que j'appelais l'essentiel. Il me semblait que, mettons la pensée de Proust sur le temps ou sur n'importe quel autre sujet, était une pensée seconde, parce qu'elle n'était pas ramenée à des concepts, ni réductible à des concepts. Et c'est dans ce sens un peu gros, n'est-ce pas, qu'on peut faire une différence entre philosophie et littérature. À présent, je ne crois absolument pas qu'il y ait de frontières, n'est-ce pas, ni qu'il y ait de points où on puisse dire « ici commence la philosophie ». Et Proust, puisque nous en parlons, dans la suite m'est apparu comme, y compris la manière proustienne de s'exprimer, qui n'est pas philosophique, tout cela m'est apparu comme faisant partie de ce que j'appelle à présent la philosophie. C'est plutôt à ce moment-là que j'avais une idée étroite de la philosophie, et elle en avait une idée plus profonde, finalement, et plus large.
Bonjour Sylvie Le Bon de Beauvoir.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur Le Nouveau Chemin de la Connaissance. Vous êtes philosophe et vous êtes également et surtout la fille adoptive de Simone de Beauvoir, qui vous a adoptée, dites-vous, afin de vous confier son œuvre et de s'occuper de son travail. Travail et tâche que vous prenez très au sérieux et que vous menez encore aujourd'hui, évidemment. On vient d'entendre la voix de Merleau-Ponty dans des entretiens avec Maurice Merleau-Ponty qu'a donné Simone de Beauvoir. C'était le 29 mai 1959. Merleau-Ponty reconnaît, ici dans un élan d'humilité quand même, que Simone de Beauvoir avait compris plus vite que lui que littérature et philosophie ne s'opposent pas. Je vous voyais froncer les sourcils en écoutant cette archive.
Oui, effectivement, Simone de Beauvoir a toujours tenu à ne pas faire de différence, si je peux dire, entre littérature et philosophie. Ou plutôt, ce n'est pas ça, c'est que pour elle, c'était deux modes d'expression équivalents d'une même réalité. Et ça nous met au cœur du sujet, justement, pour son œuvre de romancière. Deux moyens d'expression équivalents pour la réalité fondamentale qui est que l'homme est spontanément en situation métaphysique. Et on peut l'exprimer soit, comme le dit Merleau-Ponty, en concept, et ça, c'est la philosophie proprement dite, ou on peut l'exprimer sous forme de roman, voire de théâtre, et c'est ce qu'elle a voulu, elle, justement. Elle a d'ailleurs écrit un essai sur littérature et métaphysique pour montrer qu'on ne fait pas de métaphysique, on est métaphysique, dès lors qu'on est une conscience jetée dans le monde.
Ce qui ne signifie pas qu'elle a voulu faire de la littérature à thèse. Elle insiste beaucoup sur ce point.
Surtout pas. Le roman à thèse, qui est une chose qui, de toute façon, est indéfendable. Non, il s'agit de montrer, justement, la situation métaphysique en question à travers des individus singuliers, en chair et en os, dans des situations concrètes. Bien entendu, il s'agit de littérature.
Et à lire ses romans, on voit le goût qu'elle prend à mettre en place tout un stratagème narratif pour créer des situations qui vont donner lieu à ce qu'elle-même appelle des situations métaphysiques, c'est-à-dire à mettre en scène des personnages qui n'existent pas tant par leur épaisseur psychologique que par leur rapport au monde. Cette expression paraît abstraite, mais elle a vraiment un sens
en
l'occurrence.
Oui. C'est-à-dire que le point de vue psychologique existe, le point de vue social, mais par-delà les contours psychologiques et sociaux, il y a un point de vue qui lui paraissait plus profond et plus total et qu'elle appelle métaphysique. Et au fond, ce qu'elle appelle métaphysique, c'est justement l'individu dans sa totalité, face au monde, dans sa totalité. C'est le point de vue de la totalité, alors que le point de vue psychologique ou social est partiel, il est limité. Mais attention, il est valable, mais il est limité.
Et pourtant, elle part toujours des individus dans ses romans. On peut voir un double mouvement. Dans certains romans, elle part d'une seule expérience pour essayer d'en tirer une portée universelle. Et dans d'autres, on a l'impression que c'est plutôt l'inverse, qu'elle part d'un présupposé, parfois d'une idée reçue universelle, en la ramenant à une seule conscience, de manière à éprouver la validité de cette idée reçue au sein de l'expérience.
Vous pensez, par exemple, je ne sais pas, à Tous les hommes sont mortels ?
Par exemple.
Oui, oui. Oui, ce qu'il y a, c'est que tout en ayant cette idée de montrer ces personnages dans leur totalité, face au monde dans leur totalité, elle a quand même, je crois qu'il faut le dire d'abord, elle a quand même évolué en tant que romancière. Si on prend, par exemple, son premier roman publié, on y reviendra, c'était pas son premier roman, bien sûr, écrit, elle a beaucoup écrit avant, on y reviendra, mais c'est son premier roman publié. Et si on passe, mettons, au mandarin, on voit quand même une évolution très importante.
Son premier roman publié, c'est L'Invité,
L'Invité,
en 1943.
C'est ça. Et Les Mandarins, ça nous met 10 ans plus tard, même en 54. Et c'est pour Les Mandarins qu'elle a eu le prix Goncourt. Eh bien, bien que gardant toujours à l'arrière-plan ce que nous venons d'évoquer, cet arrière-plan métaphysique, elle a quand même évolué. Si vous voulez, L'Invité, c'est le point de vue du moi, et dans Les Mandarins, on a le point de vue du nous. Et ça fait un grand changement, mais je pense qu'il faut parler plus précisément de ces deux romans, peut-être.
Le malaise de ce soir, peut-être il fallait appeler ça de la jalousie. Françoise n'avait pas aimé que Pierre prît Xavier au sérieux. Elle avait été gênée des sourires que Xavier adressait à Pierre. C'était une morosité passagère dans laquelle il entrait beaucoup de fatigue. Si elle en parlait à Pierre au lieu d'une humeur fugitive, cela deviendrait une réalité inquiétante et tenace. Il serait obligé d'en tenir compte désormais, alors qu'elle n'en tenait pas compte elle-même. Ça n'existait pas. Elle n'était pas jalouse. Dans sa chambre, en dessous d'eux, Xavier buvait du thé. Elle avait allumé une cigarette. Elle était libre de choisir l'heure où elle se coucherait, seule, dans son lit, loin de toute présence étrangère. Elle était totalement libre de ses sentiments, de ses pensées. Et sûrement à cette minute, elle s'enchantait de cette liberté. Elle en usait pour condamner Françoise. Elle voyait Françoise allongée aux côtés de Pierre et tout écrasée de fatigue. Et elle se complaisait en un orgueilleux mépris. Françoise se raidit. Mais elle ne pouvait plus simplement fermer les yeux et effacer Xavier. Xavier n'avait cessé de grandir toute la soirée. Ses exigences, ses jalousies, ses dédains, on ne pouvait plus les ignorer puisque Pierre se mêlait d'y attacher du prix. Cette Xavier précieuse et encombrante qui venait de se révéler, Françoise la repoussait de toutes ses forces. C'était presque de l'hostilité qu'elle sentait en elle. Mais il n'y avait rien à faire, aucun moyen de revenir en arrière. Xavier existait.
Dans le roman L'Invité, le premier roman publié donc en 1943, Françoise est en couple avec Pierre et un jour, un soir, s'invite Xavier, la jeune personne Xavier. Ils passent d'abord une soirée tous ensemble et puis rapidement Françoise va sentir que Pierre est attiré par Xavier. Elle va sentir la jalousie naître en elle et à partir de là s'amorce une lutte des consciences, je pense qu'on peut employer cette expression, puisque Simone de Beauvoir elle-même...
L'épigraphe du roman... c'est chaque conscience poursuit la mort de l'autre.
En citant Hegel, justement, comme si toute lutte de conscience ne pouvait s'en suivre, se terminer, que par la mort d'une autre conscience. Sans forcément dévoiler la fin du roman, mais enfin, en même temps, on est obligé d'en parler, si on veut en parler complètement. Françoise va finir par tuer Xavier, c'est la dernière page du roman, dans un élan meurtrier peu vraisemblable, mais qui fait vraiment sens, là, pour le coup, au niveau de la métaphysique, si je peux,
oui,
voilà, pour reprendre l'expression de Simone de Beauvoir. Et là, dans le texte, on vient d'entendre, qui était magnifiquement interprété
nous
par
au cœur du,
Marianne Bassler,
du roman.
On est au cœur du roman et on entend la façon dont Françoise ne supporte pas seulement la présence de Xavier, mais l'existence de Xavier. Xavier existait, dit-elle, ce qui ramène Françoise non seulement à sa propre solitude dans cette conscience qui n'arrive pas à s'incarner, mais surtout dans cette conscience d'une altérité irréductible qui est sa rivale.
Oui, là, Simone de Beauvoir a donné une forme littéraire et a dramatisé littérairement une expérience qui la hante depuis son adolescence. Et en somme, elle a découvert qu'elle-même était une conscience. Une conscience, comme toute conscience, est unique et absolue. Bien entendu, elle savait qu'il y existait d'autres consciences, mais elle le savait comme on sait des on-dit. Par exemple, on dit que on va mourir, mais ça reste un on dit. Et ce qui arrive dans le roman, c'est le passage de ce on dit, c'est de ce savoir abstrait, à un savoir vécu, concret, dramatique. Elle prend conscience que, justement, en face d'elle, conscience unique et absolue, il y a une autre conscience, unique et absolue, celle de Xavier. Bien entendu, Pierre existe et il est aussi une conscience unique et absolue. Mais étant donné leur rapport de parfaite égalité, de parfaite transparence, ça ne pose aucun problème. C'était comme si la conscience de François s'était élargie à deux personnes. Ça n'a posé aucun problème. Tandis que la conscience de Xavier, pourquoi est-ce qu'elle pose problème? C'est que Xavier, précisément, va se montrer, disons, hostile ou agressive envers Françoise. Et du coup, elle va voler, en somme, son monde à Françoise, qui, de conscience unique et absolue, va passer à n'être plus personne. Elle va croire qu'elle n'est plus personne. Et au fond, c'est ce drame, justement, d'affrontement des consciences qui est au cœur du roman. Et je tiens à préciser que vous avez à juste titre parlé de jalousie, mais que ce n'est justement là où on sent la différence entre un roman qui serait purement psychologique et ce qu'elle a voulu faire dans l'invité qui n'est pas cela. Et ce n'est pas un roman sur un trio et un roman sur la jalousie amoureuse, pas du tout. La jalousie amoureuse est une illustration de la fameuse lutte des consciences que nous avons évoquée par l'épigraphe tirée de Hegel. Je précise que Simone de Beauvoir a découvert cette épigraphe dans Hegel en 1940 seulement, et que, comme je l'ai dit, et qu'on va le revoir avec les œuvres de jeunesse, elle était hantée par ce thème depuis son adolescence. Elle avait déjà conçu le roman et entrepris de l'écrire quand elle a découvert la citation de Hegel. Elle n'est donc pas partie, cette citation. C'était vraiment une expérience vécue. Mais justement, c'est sa conception de la philosophie. C'est que la philosophie, ça s'incarne. Et c'est pour ça qu'elle avait absolument besoin des deux modes d'expression, soit la philosophie, soit la littérature. Là, c'est un roman, et avec toutes les règles du roman, des personnages en chair et en os. Et elle va découvrir, donc, dans son corps, dans son être même, qu'il existe en face d'elle une autre conscience rivale absolue, c'est celle de Xavier. Et en effet, après d'autres péripéties, vous avez évoqué le dénouement, et là, c'est encore une dramatisation littéraire, et c'est vraiment un meurtre métaphysique, parce que le seul moyen de supprimer cette conscience hostile qui lui vole le monde, qui lui vole son propre personnage, en la transformant en quelqu'un de laid, d'affreux, parce que Xavier pense que Françoise lui a volé Gerbert. Et effectivement, elle a une histoire amoureuse avec Gerbert, mais qui est vécue dans la gaieté, dans l'innocence, et qui, dans le regard de Xavier, se transforme en une trahison abominable.
C'est Maurice Blanchot qui qualifie l'invité de roman du regard.
Oui, absolument.
Précisément. Et c'est une bonne manière, il me semble, de rendre justice au talent narratif de Simone de Beauvoir, puisqu'en parler peut-être ne permet pas d'entendre la façon dont est mise en scène et écrit, relaté ces relations. Toute la narration est au service de ce drame authentique que l'on a rapidement évoqué, mais en réalité le vrai drame n'est ni la jalousie, ni le meurtre. Le vrai drame, c'est ce qui se passe dans la conscience de Françoise,
ça,
qui se
ça.
Sent annihilée, même anéantie,
voilà.
Dans son jeu propre.
En tant que conscience, c'est ça. Et en plus, je vous dis, il y a une espèce de sortilège, de malédiction, parce qu'elle est transformée en un personnage tout à fait répulsif par le regard de Xavier. C'est, je vous dis, Xavier pense comme trahison, ce qui, dans la conscience de Françoise, n'est nullement cela. Donc, il n'y a aucun moyen de se défendre contre le regard d'autrui qui vous change, mettons, en sorcière. Et donc, c'est vraiment... pour cela qu'elle va aller jusqu'à l'extrême du meurtre, mais une fois encore, il s'agit d'une dramatisation littéraire.
Elisabeth avait quitté la table. Elle dansait, les yeux gonflés, la bouche crispée. François fut traversé d'une espèce d'envie. Les sentiments d'Elisabeth pouvaient bien être faux, et sa vocation fausse, et fausse l'ensemble de sa vie, sa souffrance présente était violente et vraie. Françoise regarda Xavier. Xavier dansait, la tête un peu rejetée en arrière, le visage extatique. Elle n'avait pas de vie encore. Pour elle, tout était possible, et cette soirée enchantée contenait la promesse de 1000 enchantements inconnus. Pour cette jeune fille, pour cette femme au cœur lourd, ce moment avait une saveur âpre et inoubliable. « Et moi, » pensa Françoise, « spectatrice. Mais ce jazz, ce goût du whisky, cette lumière orange, ce n'était pas seulement un spectacle, il aurait fallu trouver quelque chose à en faire. Et quoi ?» Dans l'âme farouche étendue d'Elisabeth, la musique se changeait doucement en espoir. Xavier la trouvait et la chargeait d'une attente passionnée. Et Françoise seule ne trouvait rien en elle qui s'accorda avec la voix émouvante du saxophone. Elle chercha un désir, un regret, mais derrière elle, devant elle, s'étendait un bonheur aride et clair. Pierre, jamais ce nom ne pourrait éveiller une souffrance. Gerbert, elle ne se souciait plus de Gerbert. Elle ne connaissait plus de risques, ni d'espoir, ni de crainte. Seulement ce bonheur sur lequel elle n'avait même pas de prise. Elle alluma une cigarette. Non, elle ne trouvait rien d'autre que ce regret abstrait de n'avoir rien à regretter. Elle ne se prenait jamais plus à la violence des instants. Elle savait bien qu'aucun d'entre eux n'avait de valeur décisive. « Enfermée dans le bonheur, » murmura-t-elle. Mais elle sentait une espèce de sourire au-dedans d'elle. Jeu de regard, alcool, musique, Françoise est spectatrice de Xavier et d'Elisabeth, qui est une autre jeune femme qu'elle
c'est
a envie.
C'est la sœur de Pierre.
Voilà, la sœur de Pierre, donc sa belle-sœur. Et pourtant, c'est ça qui est surprenant, pourtant, elle parle de bonheur. Elle parle de bonheur. Elle est triste de savoir qu'elle va être heureuse. Que vient faire le bonheur là-dedans?
Oui, c'est parce que elle pense... Oui, elle est heureuse. Au départ, elle est heureuse, elle a une relation heureuse avec Pierre. Mais là, c'est l'illustration d'un autre thème qui est essentiel à Simone de Beauvoir, c'est le mirage de l'autre. Soi-même, on vit ses propres expériences de façon spontanée, mais on ne se voit pas. Et, tandis que l'autre, on le voit et l'autre paraît un objet plein, un objet fascinant. Il est fascinant parce qu'il paraît être et... C'est ce qui fait que, petit à petit, Xavier paraît pleine, paraît de l'être à Françoise. Et en revanche, elle pense qu'elle n'est rien
qu'une sorte de courant d'air. Et même si elle est heureuse, elle pense qu'elle n'est personne. Et elle a une sorte de dépersonnalisation. Et ça, c'est parce qu'elle se laisse fasciner, bien sûr, par le mirage de l'autre. C'est un mirage. Car l'autre n'est pas plus plein pour lui que nous le sommes pour nous-mêmes. Mais avec le jeu, justement, du regard, comme vous dites, Xavier, ainsi que dans cette scène Elisabeth, lui paraissent peser plus lourd sur la terre, si vous voulez, qu'elle, qui est simple spectatrice, c'est-à-dire qui a un regard qui est léger, qui ne se pose, qui est impalpable, vous voyez. Alors que, en fait, Elisabeth, pour reparler d'elle, c'est le type même de la femme truquée. Et elle est très malheureuse parce que elle se dévalorise elle-même. Tout ce qu'elle vit, elle pense que ça n'a aucune valeur. Et donc, c'est le mirage du regard de Françoise est particulièrement fort parce que Elisabeth ne justifie pas du tout cette exaltation.
Est-ce que c'est pas une manière de dire aussi que l'expérience de dépersonnalisation, cette absence même d'existence, cette néantisation de la conscience à elle-même, n'est pas affaire de malheur. On peut très bien être heureux, c'est le cas de Françoise, et quand même ne pas se sentir exister.
Certainement, oui, mais ce n'est pas ce que veut vraiment Françoise. Là, elle est un petit peu, c'est une scène où elle rêve un peu et elle pousse un petit peu à l'extrême parce que en fait, elle ne supportera pas de ne pas exister.
Ce n'est pas ce que veut Françoise, mais c'est ce que souhaite dire sans doute peut-être Simone de Beauvoir en écrivant ce texte, puisqu'elle montre bien que cette expérience métaphysique par excellence, qui est celle décrite par l'existentialisme, par Jean-Paul Sartre, n'est pas affaire de malheur ou de bonheur.
Pas fondamentalement, mais tout de même, c'est lié.
En quel sens alors ?
Vous voyez, par exemple, Elisabeth est une femme vraiment malheureuse parce que elle n'existe pas, parce que elle ne donne de valeur à rien de ce qu'elle vit, vous voyez. Et en fait, elle est très malheureuse. Et comme elle ne donne de... Alors que ce n'était pas du tout le cas de Françoise. Françoise vivait pleinement ce qu'elle vivait. C'est l'intrusion de l'invité, de Xavier, qui modifie sa pensée jusqu'à la scène que vous avez lue. Mais en fait, elle vivait pleinement ce qu'elle... D'ailleurs, quand on la voit vivre son amour avec Gerbert, on voit que tout ce qu'elle vit est fort et riche. Alors qu'Elisabeth, pas du tout. Pourquoi ? On ne sait pas. On peut rêver. C'est le lecteur. Un roman, un bon roman, doit justement laisser des interrogations. Il doit être ambigu. Il ne doit pas donner d'interprétation. C'est au lecteur, avec sa liberté, d'intervenir. Et c'est plaisir de lire. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais Elisabeth dévalorise tout ce qu'elle vit. Et pour compenser, elle a des attitudes violentes, extrêmes, vous voyez. Et c'est ça qui peut tromper Françoise, par exemple, qui la voit de l'extérieur, qui dit « Ah, oh, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle pense », alors que c'est complètement faux. Et que c'est pour contrebalancer son vide intérieur qu'elle se lance dans des attitudes très tranchées. Elle a une assurance extérieure. Et ça, également, c'est une expérience que Simone de Beauvoir a vécue dès sa jeunesse. Elle l'a dit plusieurs fois en face de son amie Zaza. Zaza avait une assurance, et pourtant, là encore, c'était un mirage, puisque la fin a été tragique. Mais apparemment, quand elle avait 10 ans, 12 ans, 15 ans, Zaza avait une assurance, une ironie qui plongeait Simone de Beauvoir dans l'admiration. Elle était timide, elle n'osait pas s'affirmer comme Zaza. Et en fait, justement, face à ces personnages, Simone de Beauvoir disait, face à Zaza, je n'étais rien. Je n'étais personne.
J'étais le versant négatif de Zaza,
voilà,
dit-elle.
Je n'avais pas de personnalité. Je ne pouvais pas me définir. Tandis que, mais c'était peut-être justement la condition de sa richesse future. Voyez.
Alors, vous parlez de l'expérience avec Zaza. Dans La force de l'âge, donc un autre volume autobiographique, plus tardif, Simone de Beauvoir décrit sa relation à Sartre dans ces termes. Depuis que j'avais rencontré Sartre, je me déchargeais sur lui du soin de justifier ma vie. Je trouvais cette attitude immorale, mais je n'envisageais aucun moyen pratique d'en changer. L'unique recours, c'eût été d'accomplir un acte dont personne ne put assumer à ma place les conséquences, mais il fallait que la société s'en saisît. Sinon, Sartre les eût partagés avec moi. Il n'y avait qu'un crime qualifié qui pût me rendre à la solitude. Elle décrit exactement, en d'autres termes, qui sont cette fois des termes non plus fictionnels mais autobiographiques, l'aliénation de la conscience de Françoise par Pierre.
Oui, bien que je ne sois pas vraiment d'accord... Je ne pense pas, parce qu'elle a bien pris soin
de... Le rapprochement est troublant quand même, vous reconnaîtrez.
Oui, mais Françoise et Pierre avaient des rapports de parfaite égalité. Il n'y a pas d'aliénation dans l'amour. L'amour n'est pas une aliénation.
Françoise est complètement aliénée dans cette histoire. Elle n'arrive pas à voir les choses par un autre point de vue que le sien qui déforme.
Par la médiation d'un tiers qui est Xavier. Mais ce n'est pas le fait d'aimer qui vous aliène. Alors ça aurait révolté Simone de Beauvoir. Non. Puisqu'il y a des deux parts, il y a reconnaissance mutuelle, donc il ne peut pas y avoir d'aliénation. Là, elle parle d'autre chose dans l'extrait que vous avez cité. Elle parle de ce qui l'a gênée dans le début de ses rapports avec Sartre. C'est plutôt qu'elle a été aliénée au bonheur. Et que, comme elle était très heureuse, eh bien le bonheur, c'est-à-dire sa relation avec Sartre, la justifiait. Et c'est pour ça qu'elle a eu du mal à se mettre à écrire et qu'elle a mis plusieurs années à se mettre au travail.
Elle parle quand même d'accomplir un crime et elle dit que c'est d'ailleurs...
Attention, il ne faut pas tout mélanger. Là, elle parle de l'invité. C'est une transposition romanesque et dramatique. Et en fait, l'équivalent du crime que Françoise va commettre, ce n'est pas un crime que Simone de Beauvoir a été incapable de commettre. Ce qui l'a sauvée de l'aliénation au bonheur, et pas à Sartre, mais au bonheur, c'est d'écrire, c'est de travailler. C'est d'écrire l'invité et d'être publié, de devenir un écrivain. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas confondre l'aliénation à un homme. Ça, alors, ça serait comme si elle avait été une femme dépendante relative. Dieu sait qu'elle n'a pas dit ça. Mais c'est que l'aliénation au bonheur, c'est-à-dire que le bonheur vous paraît suffisant pour vous justifier et pour exister et que vous ne cherchez plus à faire autre chose. Et c'est, elle l'a bien décrit, ça, au début de La force de l'âge. Elle a eu plusieurs années où le bonheur lui a posé problème.
Une des caractéristiques du roman et du théâtre aujourd'hui est que c'est le contenu éthique du choix plutôt que la motivation psychologique qui semble important. Dans les anciens temps de sécurité matérielle et spirituelle, les valeurs morales étaient considérées comme absolues et personne ne rêvait de les mettre en question. Si en certaines circonstances un individu les respecterait ou non était un problème purement psychologique, on faisait l'effort de décrire son hérédité, son enfance, son tempérament et sa façon de justifier son choix, mais les normes étaient établies d'avance. Dans les dernières années, cependant, les hommes ont été jetés dans un monde dans lequel aucun de ces vieux critères ne servait plus à rien et où les traditions ne guidaient plus leur choix. Les circonstances étaient horriblement nouvelles. Tout devait être improvisé. Maintenant, quand ils réfléchissent à leurs expériences, la question qui se pose n'est pas « Pourquoi ai-je fait cela ?» mais « Qu'aurais-je dû faire ?»
Elle était bouleversée de sentir en elle de si riches possibilités. Si l'occasion s'en fut présentée ce soir, il n'y a pas un héroïsme dont elle n'eût été capable. Elle aurait engagé joyeusement toute sa vie. Dans un éblouissement, elle aperçut toutes les existences généreuses et fécondes qui pourraient être les siennes, grandes entre les grandes, parce qu'elles seraient le développement par l'accomplissement de la tâche quotidienne du mouvement le plus généreux d'une âme ayant atteint son apogée moral. Elle ne les apercevait pas seulement littéralement. Elle les vécut dans une minute haletante d'intense concentration. Cela dura une minute, puis elle s'écroula sur le sol, éclata en sanglots, épuisée, comme si le poids de toutes ses vies pesait vraiment sur ses trop frêles épaules. Elle, qui jadis ne versait que très rarement des larmes, pleurait presque tous les jours maintenant. Des larmes douces de détente par lesquelles elle renaissait plus forte pour reprendre le fardeau de douleur ou de joie. Ce soir, ce n'étaient pas des larmes apaisées, mais une explosion de désespoir telle que depuis la mort de son père, elle n'en avait pas éprouvé. Une détresse horrible dont il lui semblait qu'elle ne pourrait jamais sortir, sans pensée, sans sentiment, une douleur de bête blessée. Les larmes, elle les acceptait et presque les aimait les autres jours. Mais là, elle était prostrée, sans pouvoir, sans volonté, faible, infiniment faible. Elle resta près d'une heure, privée de sentiments, et lorsque sonna la cloche du dîner, elle rentra comme une somnambule, et c'est comme une somnambule qu'après s'être lavé les yeux, elle entra dans le salon. Elle était absorbée par cette seule pensée, ne pas éclater en sanglots publiquement. Elle s'aperçut que plus elle s'y appliquait, plus elle restait tremblante et qu'elle allait être obligée de quitter la table. Elle fit un brusque effort pour s'intéresser à tout prix à la conversation. Oublier, oublier. Peu à peu, la sérénité lui revint. Descendue sous les calmes étoiles promenées dans le parc silencieux, elle sentit la raison lui revenir en respirant l'air apaisé du soir. Elle comprenait pourquoi elle avait pleuré et dominait donc sa souffrance. « Je pleurais de ne pouvoir réaliser l'existence de mon rêve, » songeait-elle. « C'est vrai, je ne le peux ce soir, mais il suffit d'attendre et l'occasion viendra. » Elle vient toujours, et d'ailleurs je la susciterai. J'aurai la force d'attendre et j'inaugure cette attente en façonnant mon âme en vue de cette vie où vraiment je vivrai.
Si tu t'imagines, fillette, si tu t'imagines, ça va que ça, va durer toujours la saison, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que
vous
ça
écoutez
va,
France Culture et nouveau chemin de la connaissance, c'est le dernier jour aujourd'hui de notre série d'émissions consacrée à Simone de Beauvoir et nous parlons de ses écrits littéraires. L'invité, Eliane, bientôt Les Mandarins, en compagnie de Sylvie Lebon de Beauvoir, philosophe et fille adoptive de Simone de Beauvoir.
Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleils et planètes tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois. Très sournois s'approche.
Le texte que l'on vient d'entendre est tiré du roman intitulé Eliane, écrit en 1926, donc c'est parti des écrits de Genèse de Simone de Beauvoir qui a été publié bien plus tard. Alors il est intéressant d'entendre ses premiers pas littéraires, notamment si on les met en rapport avec l'article dont j'ai lu un extrait intitulé « Anciens et nouveaux héros » dans lequel Simone de Beauvoir montre que le statut de héros dans un roman a changé. Le héros est moins un objet que une forme de nécessité d'accomplir un acte. Et là on entendait cette Eliane qui... prise de vertige face à tous les possibles qui s'offrent à elle, puisqu'elle le dit, elle se pense qu'il n'y a pas un héroïsme dont elle ne serait pas capable ce soir-là, finalement fond en larmes, sanglote à tel point qu'elle ne peut plus agir. On est là dans un roman qui est extrêmement contemporain, qu'il faut réinscrire dans un contexte particulier.
Oui, et je suis contente qu'on parle d'Eliane, et parce que c'est, je crois, le premier écrit de Simone de Beauvoir. Elle l'a écrit à 18 ans, et effectivement, il apparaît un thème qui va la poursuivre pas mal d'années de son adolescence. C'est la crainte d'être, comme elle disait, vaincue par la vie. Et c'est ce que ressent, entre autres, Eliane. Bien sûr, devant elle s'ouvrent beaucoup de possibles, mais est-ce qu'elle pourra, justement, se servir de ces possibles et devenir quelqu'un, exister ? Et ça a beaucoup fait souffrir Simone de Beauvoir elle-même de 15 à 18 ans, disons. Donc c'est pas étonnant que dans son écrit, elle évoque cette crainte. Et je suis contente parce que Eliane, nous l'avons publiée dans le cahier de Lerne qui vient de paraître, consacré à Simone de Beauvoir, ainsi que un échantillonnage des œuvres de jeunesse. Comme je vous le disais tout à l'heure, avant que ne paraisse l'invité en 1943, Simone de Beauvoir a beaucoup écrit. Elle l'a dit d'ailleurs, j'ai beaucoup écrit dans ma jeunesse. Et ça, je viens de m'apercevoir dans les années qui, les deux ou trois dernières années, à quel point c'est vrai et combien elle a écrit. Je dis dans les deux dernières années parce que, enfin, les dernières années. Parce que l'un de ces huit romans, puisqu'il y en a huit qu'elle a écrit avant l'invité, un de ces huit romans et un des plus gros, qui s'appelle Départ, a été en somme exhumé presque par hasard. On l'a retrouvé dans une enchère, je crois que ça a été vendu chez Sotheby's, enfin. Et la Bibliothèque nationale l'a acheté, et du coup,
eh bien, je me suis mise à le transcrire, ce qui, entre parenthèses, est un travail de bénédictin, vu l'écriture de Simone de Beauvoir. Donc, elle a écrit énormément de romans à partir de cette Eliane dont on a vu un extrait.
Et ce vertige dont est prise Eliane, cette espèce de souffrance aussi, vous n'avez pas employé le terme de souffrance, de quoi cette souffrance, quelle est l'origine de cette souffrance? Est-ce qu'on peut la remettre sur le compte d'un, disons, du versant plus négatif ou plus douloureux de l'existentialisme qui affirme que l'homme est une liberté absolue qui s'investit au sein d'un projet et qui du coup s'incarne dans ce que l'homme fait, non pas simplement dans le simple fait de penser ou d'être, mais faire et agir implique nécessairement de renoncer à certains possibles. Est-ce que la souffrance vient de là ?
Oui, cependant, justement, la souffrance vient de ce que l'être humain n'est pas une liberté absolue, comme vous avez dit. Elle est une liberté en situation. Et Simone de Beauvoir, née femme dans une famille bourgeoise du début du XXe siècle, était dans une situation où elle pouvait craindre d'être vaincue par la vie, parce que le destin qui lui était préparé, c'était de se fiancer, de se marier, d'avoir des enfants, d'être une bonne mère de famille, cultivée, certes, mais dans la voie qu'avait suivie sa mère, dans les rails de toutes les autres femmes. Et c'est ça qui l'a beaucoup fait souffrir, c'est qu'elle s'est découverte elle-même, elle s'est créée elle-même, et c'est très douloureux. En plusieurs années, on voit cette création de soi par soi-même dans ses cahiers de jeunesse, et elle a dû entrer en lutte ouverte avec sa famille. C'est très pénible. Elle aimait son père, sa mère, elle les aimait. Et quand elle s'est mise à faire des études, à découvrir qui elle était vraiment, et quels étaient ses vrais désirs, ses vraies volontés et sa vocation d'écrivain, qu'elle a découverte à 15 ans, elle entrait en conflit frontal avec les ambitions de sa famille. Et son père, qui l'aimait tant quand elle avait 10 ans, l'a quasiment renié, s'est désintéressé d'elle. Tout ça, c'était très pénible. Donc, vous voyez, liberté, certes, mais en situation. Et la situation d'une femme, vers 1920, c'était pas, ça n'allait pas de soi de se libérer du carcan historique. Et ce qui lui faisait horreur, c'était l'idée qu'elle pourrait répéter la vie de sa mère.
Cette idée d'une conscience qui s'incarne, on la retrouve dans tous les écrits de Simone de Beauvoir.
Oui, c'est ça.
Ses mémoires, ses écrits plus romanesques. On la retrouve même, là on a entendu un extrait d'Eliane, mais jusque dans Les Mandarins, donc 1954, au prix Goncourt, où on retrouve là aussi une figure féminine qui hésite et qui souffre de ne savoir sur quel mode elle doit agir dans sa vie. Alors cette fois-ci, non seulement sa vie personnelle et intime, mais également s'inscrire dans une forme d'histoire qui a lieu et qui met en scène des enjeux à la fois éthiques et idéologiques, qui demandent tout simplement, qui interpellent et qui donnent une injonction à agir. C'est le cas du personnage Anne Dubreuil, qui est une psychanalyste et épouse de Robert Dubreuil, grand écrivain engagé, qu'on va retrouver dans un instant après avoir écouté la voix de Raymond Aron, qui parle justement de cette question de l'engagement des intellectuels après-guerre. Écoutez.
Eh bien, d'une certaine manière, je suis devenu passionné contre le stalinisme par mauvaise conscience de ne pas m'être exprimé contre l'hitlérisme. J'avais été paralysé pour m'exprimer contre Hitler et le national-socialisme. Dans le cas du stalinisme, je n'étais plus paralysé. Nous sortions d'un régime totalitaire qui avait répandu le malheur sur le monde. Et j'ai été saisi d'une espèce de fureur en voyant que tant d'intellectuels de bonne volonté tombait à nouveau dans le piège du totalitarisme et croyait qu'un totalitarisme était bon parce qu'il se réclamait d'une doctrine qui en elle-même est noble, généreuse, rationaliste, humanitaire. Alors j'ai eu une espèce de fureur, probablement excessive, qui venait du fait que je ne m'étais pas manifesté assez dans les années 30. Et alors comme une partie importante de l'intelligentsia, y compris mes anciens amis, Sartre, Merleau-Ponty, était communiste ou communisant. Je suis devenu, parmi les intellectuels qui passaient pour avoir une certaine valeur, un de ceux qui s'exprimaient le plus vigoureusement contre le stalinisme. Vous le savez, j'ai publié l'Opium des intellectuels en 1955. L'intellectuel français est séparé des réalités économiques et sociales qu'il connaît mal. Il a la nostalgie de l'universalisme, de l'universalité, Il est insatisfait d'une petite France. Il est de tradition gauche. Il vit dans un pays catholique. Et les pays catholiques sont probablement plus exposés à l'universalisme communiste que les pays protestants. Il rêve d'une solution totale des problèmes sociaux. Et puis il y a un élément de conformisme. Enfin, il est plus facile de se dire de gauche que de refuser de l'être.
L'humanité allait quelque part, l'histoire avait un sens, et ma propre existence aussi. L'oppression, la misère enfermaient la promesse de leur disparition, le mal était déjà vaincu, le scandale balayé. Le ciel s'est refermé au-dessus de ma tête et les vieilles peurs m'ont quitté. Ce n'est pas à coup de théorie que Robert m'en a délivré. Il m'a démontré que la vie se suffisait en vivant. La mort, il s'en fichait complètement, et ses activités n'étaient pas des divertissements. Il aimait ce qu'il aimait, il voulait ce qu'il voulait, il ne fuyait rien. Sans doute, je ne demandais qu'à lui ressembler. Si j'avais mis la vie en question, c'était surtout parce que je m'ennuyais à la maison. Et maintenant, je ne m'ennuyais plus. Robert avait tiré du chaos un monde plein, ordonné, purifié par cet avenir qu'il produisait. Ce monde était le mien. La seule question, c'était de m'y tailler ma place à moi. Être la femme de Robert, ça ne me suffisait pas. Jamais avant de l'épouser, je n'avais envisagé de faire une carrière d'épouse. D'autre part, je ne songeais pas une minute à m'occuper activement de politique. Dans ce domaine, les théories peuvent me passionner et j'ai quelques sentiments forts, mais la pratique me rebute. Je dois avouer que je manque de patience. La révolution est en marche, mais elle marche si lentement, à petits pas si incertains. Pour Robert, si une solution est meilleure qu'une autre, elle est bonne. Un moindre mal, il le tient pour un bien. Il a raison, bien sûr, mais sans doute n'ai-je pas tout à fait liquidé mes vieux rêves d'absolu. Ça ne me satisfait pas. Et puis l'avenir me paraît bien lointain. J'ai peine à m'intéresser aux hommes qui ne sont pas encore nés. J'ai plutôt envie d'aider ceux qui se trouvent vivre juste en ce moment.
Même dans Les Mandarins, qui est cette espèce de fresque de l'après-guerre, et qui fait figure d'exception d'ailleurs dans le paysage littéraire des années 50, puisqu'on est bien loin là des débuts du nouveau roman, de la crise de la fiction. Ici, Simone de Beauvoir invente des personnages, une trame narrative qui mêle les différentes problématiques, notamment celle, je l'ai dit, de l'engagement au nom des intellectuels. Et bien même dans ce texte-là, on retrouve cette figure féminine qui elle-même essaie de trouver sa place non seulement auprès de son mari, puisqu'elle dit qu'elle n'avait pas envisagé de faire une carrière d'épouse, la formule est assez amusante, mais et dans l'histoire également. Donc on retrouve cette même idée au fond d'une conscience qui ne sait pas comment s'incarner.
Oui, absolument. Et vous voyez, ça c'est intéressant, Françoise, dans L'Invité, c'est une femme autonome. Elle a un travail qui la passionne, dans lequel elle s'investit. Au contraire, Anne Dubreuil, dans Les Mandarins, est une femme dépendante. Elle a un travail, mais elle ne s'y investit pas. Elle n'a pas de projet propre. Dans ce roman, il y a un foisonnement de personnages. Mais au centre, il y a deux hommes. Robert Dubreuil, l'écrivain célèbre, et Henri Perron. Et le roman, c'est l'histoire de leur amitié qui se défait en même temps que les espoirs de l'après-guerre se défont. C'est la désillusion à la fois politique, puisqu'on a appelé ça l'échec de la résistance, et privée, parce que des amitiés qui étaient très fortes, très vivantes, sont pulvérisées. À côté de ces deux protagonistes, Anne Dubreuil, mais elle est plutôt en retrait. Et pour ce qui est de l'engagement, elle ne s'engage pas, elle, en tant qu'elle-même. Elle est impliquée par les engagements de Robert Dubreuil, son mari, et ceux d'Henri, qui est leur ami, très grand ami, proche. elle y est impliquée, mais elle ne s'engage pas à titre personnel. Simone de Beauvoir a voulu, là, mettre en scène une femme relative, dépendante. Pourquoi ? Parce qu'elle pensait que c'était le cas d'une immense majorité de femmes et que, comme Anne, cette immense majorité était divisée. Voilà, parce que Anne est divisée. Mais il faut bien montrer, par exemple, le contraste entre cette héroïne femme relative, dépendante, par rapport à son mari. Elle vit à travers son mari, sa fille, le prénom m'échappe, Nadine. Tandis que Françoise, absolument pas, vous voyez. Donc, parlons des mandarins, effectivement, et la figure d'Anne Dubreuil est évidemment très intéressante. Et comme vous dites, c'est un écho. Et vous savez, c'est amusant parce que, à la fin, Anne, pour certaines raisons, est assez désespérée. Elle a même été tentée par le suicide, mais elle ne se tue pas. Et elle descend l'escalier et elle revient vers le salon où parle Dubreuil et Henri, et elle revient vers sa vie d'avant. Et dans précisément un roman de jeunesse, qui vient juste après Eliane et qui s'appelle Tentative d'existence, eh bien, Simone de Beauvoir se terminait, l'héroïne descend, elle a été vaincue par la vie, elle. Elle voulait devenir pianiste, musicienne, compositrice. Au contraire, elle accepte le fiancé, elle va se marier, elle renonce à ses ambitions personnelles, et qu'est-ce qu'elle fait ? De sa chambre, comme Anne, elle descend un escalier vers un salon et elle reprend la vie conventionnelle, si vous voulez, la vie d'avant. Donc c'est assez amusant de voir, c'est normal chez tout écrivain, mais l'unité qu'il y a tout de même dans les préoccupations profondes de Simone de Beauvoir. Et dans Les Mandarins, nous avons l'histoire de ce qu'on appelle, enfin, Kierkegaard appelait une répétition, la répétition. C'est-à-dire que Kierkegaard disait qu'on ne possède vraiment un bien que quand on l'a perdu et retrouvé. Et ce qui va être perdu, c'est l'amitié qui liait Dubreuil et Henri, et elle va se retrouver. Mais naturellement, ce ne sera pas la même qu'avant, parce qu'entre-temps, ils ont perdu toutes leurs illusions. Et ils ont renoncé à l'optimisme facile, l'euphorie qu'il y a eu juste à la libération, vous voyez.
Et c'est là que vient cette mélancolie que qu'on trouve chez quasiment tous les personnages du roman. Cette impossibilité dans le cas d'Anne Dubreuil de se projeter vers un avenir, elle le dit elle-même.
Hein, ah oui, absolument.
Pour moi, l'avenir est bien lointain, j'ai peine à m'intéresser aux hommes qui ne sont pas encore nés. Oui. J'ai plutôt envie d'aider ceux qui se trouvent vivre juste en ce moment. Être incapable d'imaginer un avenir, c'est renoncer sans doute à agir, et c'est, pour reprendre votre expression, se laisser vaincre par la vie.
Oui, et il ne faut pas oublier aussi que ce qui marque tous les personnages des mandarins, c'est la découverte de ce que Simone de Beauvoir appelle, je crois, l'horreur du monde, c'est-à-dire toutes les atrocités, les camps, etc., enfin, qui les hantent, n'est-ce pas ? Et justement, qui fait penser à Anne que, au fond, vivre, c'est une sorte de trahison, parce qu'il y a eu trop de morts autour d'eux. Il y a eu trop de malheurs, de tragédies, d'assassinats, de morts. Donc, c'est aussi marqué, bien sûr, par ce climat de l'après-guerre. Il y a une chose aussi qu'il faut bien voir, c'est que Simone de Beauvoir se projette autant dans Henri que dans Anne. Ce sont les deux versants. Henri, c'est celui qui se contente tout simplement d'exister. Il accepte la finitude, il accepte la joie des entreprises, même limitées. Alors que Anne, elle a le goût de l'absolu, elle est tentée par le néant, elle est hantée par la mort. C'est le point de vue positif-négatif, mais les deux sont Simone de Beauvoir.
Avez-vous vu un homme tout nu sortir soudain de la salle de bain, déjà chauve et un peu ventru et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez pucelles chez votre papa, élevez des singes, élevez des chats, soyez radeuses, avenue du Bois, mais ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Merci beaucoup Sylvie de Bonne-Beauvoir d'être venue nous parler de Simone de Beauvoir, votre mère adoptive aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs au Cahier de l'air, on en a dit deux mots, c'est un très très bel ouvrage. dans lequel on trouve notamment les écrits de jeunesse de Simone de Beauvoir, écrits jusque-là inédits. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour le vendredi des chemins, les chemins du vendredi, comme vous voulez. Demain, je recevrai Jean-Marc Besse et Michel Lussou qui viendront se poser la question « Comment habiter le monde au XXIe siècle ?» L'un et l'autre, philosophe et géographe, ont écrit un ouvrage sur le sujet. Ce sera donc une discussion passionnante. Rendez-vous demain à 10h. Si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et puis surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter de l'émission, où l'équipe des Nouveaux Chemins met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h50. C'est l'heure de retrouver Martin Kénéan pour Grand Amphi. Bonjour Martin.